vivante, elle est efficace. En fait, la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Est-ce que, combien de vous aimeriez avoir le Seigneur Jésus vous parler vraiment aujourd'hui? Alors, c'est ça qu'il va faire. Si vous ouvrez votre cœur, si vous êtes attentif à son esprit, si vous êtes bien disposé, le Seigneur va nous parler et il va nous changer de gloire en gloire. Donc, on va faire cette déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais changé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les récompenses? Oui, on aime ça. Mais aujourd'hui, on va parler de notre plus grande récompense. Et on va commencer dans nos Bibles en psaume 127, si vous voulez aller avec moi, psaume 127. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, vous allez voir sur la feuille presque tous les versets qu'on va lire ensemble sont là pour vous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier, parce qu'il y a un couple de choses. De un, il y a beaucoup des églises évangéliques qui ont demandé que le 5 septembre soit désigné comme une journée spéciale pour les enfants et les étudiants. Étant donné que c'est la rentrée à l'école, on sait que c'est toujours de fun pour les enfants de rentrer à l'école, je dis toujours. Souvent, ils ont hâte, mais en même temps, c'est stressant. Vous êtes d'accord? Souvent, c'est très de fun pour les parents quand les enfants rentrent à l'école aussi, parce que, savez-vous que quand les enfants sont en vacances, les parents ne sont pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Des fois, c'est plus du travail, plus du boulot. Mais savez-vous qu'ils ont demandé qu'on souligne dans notre réunion ce matin et qu'on prie pour les enfants et les étudiants. Et je me suis dit, bon, ça serait vraiment une bonne idée. En plus, aujourd'hui, c'est vraiment merveilleux parce qu'on va, vers la fin de la réunion, on va faire une consécration d'un cher bébé de notre communauté. C'est Caleb Ouellet qui vient de... Je pense qu'il est là, mais je ne le vois pas actuellement, mais c'est un super beau bébé que vous allez voir dans quelques minutes. On va faire une consécration de ce bébé. Donc, ça tombait bien dans le fond, et le Seigneur a mis dans mon cœur de juste de prendre quelques minutes ce matin, de nous rappeler l'importance de nos enfants, jusqu'à quel point ils sont précieux. En fait, comme on va voir que dans le fond, les enfants sont la plus grande récompense qu'on peut avoir. Amen, ici sur la terre. C'est sûr que, quand on parle de l'éternité, notre plus grande récompense, c'est la vie éternelle qu'on peut recevoir par la foi en Jésus-Christ. Amen. Mais à part de ça, on sait que les enfants ont toujours eux et vont toujours avoir une place spéciale dans le cœur de Dieu. On voit ça parce que Jésus, il est la volonté de Dieu en action. Tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a fait pendant son ministère terrestre, nous démontre le cœur du Père Céleste, n'est-ce pas? Donc, on voit que l'attitude que Jésus avait envers les enfants, c'est l'attitude de Dieu le Père. C'est important. Parce que souvent, et même juste cette semaine, quelqu'un m'a parlé une chose que certaines personnes parlaient de comment quelques personnes dans cette province pensent à propos de Dieu. Ils pensent, dans le fond, que pour aller parler au Père, c'est presque impossible. Parce qu'ils ont cette image du Père qui est méchant. Et c'est pourquoi, vois-tu, le Père, il est comme vraiment pas approchable. Mais le Fils, c'est moins pire, mais même là, pour aller au Fils, il faut avoir l'aide de sa mère. Et laissez-moi vous dire, si on lit la Bible comme il faut, c'est pas du tout l'image que nous avons de Dieu. On voit que Dieu est un bon papa, il est un père. Amen? Et il nous aime, et il a un cœur qui est tendre aussi. Il est à la fois capable d'exercer un jugement qui est juste et qui est équitable, mais il est tendre. Amen? Et on le voit dans les actions et dans les paroles de Jésus. En fait, la Bible dit en psaume 127, 3, que des enfants, voilà les vrais biens de famille, la récompense que donne le Seigneur. Et je sais que moi, je suis parent de 5 enfants et j'aime mes enfants. Et je suis convaincu, sans aucun doute, que les enfants que j'ai et que nous avons eux, Tanya et moi ensemble, sont vraiment une bénédiction et une récompense. Mais il faut que je sois honnête. Il y a des moments dans ce cheminement d'être parent, surtout quand il est 2 heures le matin et puis le bébé pleure et on ne sait pas pourquoi il pleure, il n'arrête pas de pleurer, ou quand il nous donne sans cesse des petits paquets bien emballés dans les couches, etc., que des fois on se pose la question. Et il faut se rappeler du fait que les enfants sont une récompense de l'Éternel. Amen. Il faut se rappeler de ce fait. Il faut vraiment confesser par la foi que les enfants sont une bénédiction. Parce que notre chair, des fois, à 2 heures le matin, est fatigué. Vous êtes d'accord? Mais la réalité, c'est que les enfants sont une bénédiction. Ils sont une récompense que donne le Seigneur. Et il faut agir comme ça. Il faut y croire. Il faut vraiment avoir cette conviction. Les enfants viennent de Dieu, ils sont une récompense, ils ne sont pas une malédiction, mais une bénédiction. Amen? Alléluia. Regardons le cœur de Jésus en Matthieu chapitre 18. Regardons, Matthieu 18. Et on va lire à partir de verset 1. Alléluia. Dieu aime les enfants. Il y a même des chants qu'on chante, Jésus aime les petits-enfants, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Et on voit que si Jésus aime les petits-enfants, que Dieu le Père aime les petits-enfants aussi. Et si Dieu le Père les aime, on devrait les aimer aussi. Donc, juste reculer un petit peu. Peut-être vous êtes là, vous dites, mais moi je ne suis pas parent, ou j'ai déjà élevé mes enfants, donc ce message ne m'applique pas. Au contraire, mon frère. Ce message s'applique à tout le monde. Parce qu'on est tous appelés à avoir un amour et un respect pour les enfants dans le naturel. Amen. Il est fort probable que si vous n'avez pas encore si vous êtes jeune, vous n'avez pas encore des enfants, il est fort probable que vous allez en avoir dans le futur. Si vous êtes moins jeune, vous avez déjà élevé vos enfants, peut-être vous avez des petits-enfants, ou peut-être vous connaissez les enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas des enfants? Hein? Et à part de ça, il y a toujours ces principes qui s'appliquent dans le domaine spirituel aussi. Dieu veut qu'on devienne les parents, les mamans et les papas spirituels pour aider ceux qui viennent de naître de nouveau à grandir en lui et devenir les enfants de Dieu qui sont mûrs et matures. Amen. Donc, tout le monde dit ce message est pour moi. Alléluia. Verset 1 de chapitre 18 de Matthieu. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ça, c'est pas mal fort, n'est-ce pas? « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom, un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Ce n'est pas juste pour les parents, mais quiconque reçoit un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Donc on voit que Jésus prend sa personnelle. Qu'est-ce qu'on fait aux enfants? Jésus prend sa personnelle. Amen. Savez-vous que Dieu, il est comme ça. Jésus est toujours comme ça. Il prend des choses personnelles. Quand Saul de Tarse persécutait l'Église, quand il ravageait l'Église, quand ils ont lapidé Étienne, et quand Saul allait de lieu en lieu et sortait des maisons les chrétiens pour les mettre en prison, quand il était sur la route de Damas et la lumière est descendue du ciel, il a entendu la voix dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Vois-tu, Jésus, dans son corps physique, a été ressuscité et assis à la droite du Père. Mais Jésus a pris sa personnelle. Il a dit dans le fond, « Saul, Saul, tu me persécutes. Tu es en train de toucher à mon épouse et j'aime pas ça. » Amen. Et savez-vous, la façon qu'on traite les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec les petits? Jésus prend sa personnelle. Amen. C'est pourquoi on voit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et jusqu'à quel point les enfants dans certaines sociétés sont méprisés. Je sais qu'au Brésil, il y a littéralement des centaines de milliers d'enfants qui sont sans abri, qui vivent littéralement dans la rue. Dans les égouts, les enfants, pas des milliers. Je ne parle pas d'un couple de centaines, mais je parle d'un couple de milliers au Brésil, sans abri. Et des fois, je devrais peut-être même pas le dire, mais c'est la vérité, des fois les policiers, ils les tuent juste pour se débarrasser. C'est pas drôle. On voit ce qui s'est passé en Russie dernièrement, on voit que les personnes n'ont pas de respect pour les enfants. C'est devenu grave, vous êtes d'accord? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut dans notre Église et dans son Église. Il veut qu'on développe cet amour, ce respect pour les enfants comme jamais auparavant. Parce que les enfants, ce n'est pas l'Église de demain, c'est l'Église d'aujourd'hui, comme on dit souvent. Je suis convaincu, entre autres, que les enfants vont être utilisés dans ces derniers jours pour amener le plus grand réveil qu'on n'a jamais vu ici sur la terre. C'est pas juste les adultes, mais c'est les jeunes. Et on le voit déjà. On voit qu'est-ce qui se passe. Et on voit que savez-vous que juste les statistiques nous montrent que 90% des personnes qui sont nées de nouveau viennent au Seigneur avant d'avoir 25 ans. 90%. 80%, c'est avant l'âge de 18 ans. Donc, le plus grand champ missionnaire dans le monde aujourd'hui, c'est parmi les enfants et les ados. Amen. Mais regardons bien qu'est-ce que Jésus a dit. Il continue. Il dit, en verset 5, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Ce n'est pas des mots trop gentils, hein? Là, on parle de Jésus. Des fois, on a cette image de Jésus qui est toujours pacifique, mais on voit que Jésus, des fois, il était capable de dire, hey, « Vous êtes une race de vipères. » Ça, c'est par la Dieu, n'est-ce pas? Mais à qui est-ce qu'il a adressé ses paroles? C'est toujours les personnes religieuses. Et ici, on voit qu'il est en train de protéger les enfants. Il est en train de dire que si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi, ça serait mieux pour lui d'avoir une pierre de meule attachée à son cou et jetée dans le mer. C'est sérieux, n'est-ce pas? C'est pourquoi qu'est-ce qu'on entend, et j'ai des rapports des fois de qu'est-ce qui se passe dans les écoles, même ici à Drummondville, sur que certains professeurs vont dire, il faut que je fasse attention parce que les gens écoutent ces messages sur l'Internet, mais c'est vrai, par exemple. Hein? Ils disent que, oh, mais les professeurs disent à leur classe, mais moi, je crois pas en Dieu, je crois pas à la Bible, je crois pas à ceci. Et ils sont en train de, on pourrait dire, enlever le fondement de la foi de certains. C'est pas tous les profs qui sont comme ça. Il y en a qui sont bons, qui sont chrétiens, qui aiment le Seigneur et qui craignent Dieu. Amen. Mais il y en a beaucoup qui, ils utilisent leur influence à l'école pour influencer les enfants et dans le fond, ils sont en train de scandaliser les enfants avec toutes sortes de doutes par rapport à la réalité de Dieu et leur foi en lui. Amen. Et selon ce que Jésus dit, c'est grave. Tout le monde dit, c'est grave. Matthieu 19, dans vos notes, dit ceci. Alors, on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et priât pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. J'aime ça. Les enfants ont une foi pure. N'est-ce pas? Ils pensent, mes enfants pensent que je suis capable de tout faire. Ils pensaient ça, rendu à l'âge comme mon fils. Là, il sait, hein, papa, il peut pas tout faire. Mais quand ils sont jeunes, hein, ils font tout, hein? Ils vont sauter dans l'air et ils vont attraper-moi. Ils pensent que des fois il faut dire hey, attention. Donc tu vois, les enfants posent les questions. Ils ont une foi. Eux autres, pour eux autres, l'idée de ne pas avoir assez de provisions pour quoi que ce soit, ça n'existe pas. Hein? Ils passent devant une place où ils ont 6 grosses autos et une piscine creusée. Il dit, oh, est-ce qu'on peut faire ça la semaine prochaine, papa? C'est comme, ben écoute, tu sais, ils posent les questions, ils demandent les choses des fois que eux autres, dans leur cœur, rien n'est impossible. Amen? Et dans le fond, c'est ça que Dieu veut chez nous. Il veut qu'on développe cette même attitude où on peut aller devant notre Père Céleste et demander les choses en sachant que notre Père est sans limite. Et c'est ça que je dis souvent. Souvent, toi et moi, on a besoin de répondre. Si tu veux une telle chose, il va falloir que tu demandes à ton Papa Céleste. Parce que ton Papa Terrestre, pour l'instant, n'a pas les moyens de faire ça. Savez-vous, ils l'ont fait, et des fois, c'est incroyable les choses qu'ils ont reçues. Amen. Parce qu'ils ont une foi. Et c'est une foi simple, humble et pure. Amen. Alléluia. Mais nous, de notre côté, nous avons une responsabilité envers les enfants. Nous avons besoin, la Bible dit, les enfants sont une récompense, c'est notre héritage, et nous avons besoin de prendre soin de notre héritage, n'est-ce pas? Donc, juste avant de faire la consécration aujourd'hui, j'avais à cœur juste de regarder sept choses simples. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps avec ces choses, mais sept choses que nous avons besoin de faire pour nos enfants, pas juste nos enfants selon la chair, mais il y a des principes qui s'appliquent pas juste aux parents, mais à tout le monde aussi. Certains principes sont plus pour les parents, mais d'autres qu'on peut appliquer avec n'importe quel enfant. Amen. Première chose qu'on a besoin de faire pour nos enfants, on a besoin d'offrir la stabilité d'un amour sans condition. La première chose dont un enfant a besoin, c'est de savoir qu'il est aimé, pas pour qu'est-ce qu'il fait, mais pour qu'est-ce qu'il est. Amen. C'est comme les personnes qui font de l'alpinisme. Savez-vous que ceux qui sont sages vont s'attacher avec les grosses cordes. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que même s'ils tombent, ils savent qu'ils sont en toute sécurité parce qu'il y a une corde et quelqu'un qui tient la corde qui va les attraper. Amen? C'est du fun parce que mes enfants avaient l'occasion, quand on était voir les grands-parents, il y avait un magasin que gratuitement les enfants pouvaient faire du alpinisme comme sur un mur. C'était un mur de 46 pieds de haut. Hein? C'est pas mal haut, vous êtes d'accord? Mais c'était incroyable parce que tous mes enfants, tous les gars l'ont fait. Mais même mon petit John, qui a 6 ans, j'étais sûr qu'il serait peut-être un peu effrayé parce que c'est haut, 46 pieds dans l'air. Mais lui, il voyait qu'il y avait des cordes. Donc, il a pris les cordes et puis les personnes qui étaient là pour l'aider l'ont attaché bien comme il faut et lui, il commençait à grimper. Puis, rendu à peu près, je dirais, 30 pieds, tout d'un coup, il lâche prise. Pas par exprès, mais... Et là, il est en train de se balancer dans l'air à 35 pieds dans l'eau. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, là, il va peut-être paniquer. Je ne sais pas, j'espérais que non. Mais non. C'est pas dérangé du tout, c'est comme, non, il se concentrait, puis il pognait une pierre, et tirait sur le mur, et continuait jusqu'à la hauteur. Mais vois-tu, il avait cette assurance. Pourquoi? Parce qu'il y avait une corde attachée, que même si je tombe, ils vont pas me lâcher. Amen? Et les enfants ont besoin de cette même assurance, que même si je tombe, maman, papa, les autres adultes dans mon entourage ne vont pas me lâcher. Amen. Ça me fait penser à un homme de Dieu qui est bien connu, qui a un grand, grand ministère, mais au moment donné, son fils, qui était ado à l'époque, commençait à faire toutes sortes de choses qui n'étaient pas correctes. Il commençait à passer par une période de rébellion. Et le Seigneur a parlé à cet homme de Dieu et a dit, le problème, c'est que Johnny pense que tu penses qu'il est un méchant garçon. Il pense que tu penses qu'il est méchant. Donc, il a dit, ah, il ne savait pas. Donc, il a eu une rencontre avec son fils et il parlait avec lui. Et lui, son fils, il aimait vraiment les couteaux. Hein. Il collectionnait les gros couteaux Bowie. Comme, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Donald, il sait c'est quoi un couteau Bowie. C'est des gros couteaux comme ils avaient dans les années 1800. Donc, lui, il est allé acheter ça. Je pense qu'il a même l'engravé avec quelque chose. Mais pour lui, c'était un symbole d'une alliance qu'il voulait faire avec son fils. Et il a regardé son fils dans les yeux et il a dit, « Je veux juste que tu saches une chose, Johnny. Peu importe où tu vas ou qu'est-ce que tu fais, je m'en fiche de qu'est-ce que tu vas faire. Il n'y a rien que tu peux faire qui va faire en sorte que je vais arrêter de t'aimer. Tu peux aller le plus bas. Je vais toujours t'aimer. » Il n'était pas en train de dire, « C'est correct, tu fais qu'est-ce que tu veux. » Mais il est en train de dire que mon amour pour toi n'est pas basé sur qu'est-ce que tu fais. C'est basé sur le fait que je t'aime avec un amour inconditionnel. Amen. Il y avait une corde attachée. Comme ça, vous savez quoi? Maintenant, son fils travaille avec lui dans le ministère. Gloire à Dieu. Mais il avait besoin de savoir, papa, il m'aime, papa, il croit en moi, papa est pour moi, il n'est pas contre moi. Amen. Alléluia. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Moi, je suis content que Jésus n'a pas pris la décision d'attendre, de m'aimer. Après, il n'a pas dit, bon, mais Ken, je ne suis pas sûr. Hein, mais dès qu'il commence à faire des bonnes choses et agir comme il faut et changer son comportement, là, je vais l'aimer. Mais pendant que j'étais encore dans mes péchés, quand j'étais dans ma période le plus rebelle, c'est là où il a démontré son amour pour moi. Et je le sais, moi j'ai vécu des choses dans mon expérience, dans ma vie personnelle. Je connais l'amour de Dieu, je connais la miséricorde de Dieu, je connais la grâce de Dieu. J'étais comme le fils prodigue et le Seigneur m'a reçu avec les bras grands ouverts. Il m'a pardonné, il m'a justifié. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes content que notre Père nous aime? Alléluia. Par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nos enfants ont besoin de savoir, oui, on s'attend à ceux qu'ils agissent bien, qu'ils soient obéissants. Oui, ça c'est tout normal. Mais il faut qu'ils sachent tout d'abord, et avant toute autre chose, que nous avons attaché une corde qui ne serait jamais rompue. Que peu importe, même s'ils tombent, on ne va jamais lâcher prise. Amen. Alléluia. Numéro 2, combler leurs besoins avec une ample provision. Là, je ne suis pas en train de dire que vous avez besoin d'une piscine creusée et tous les jouets qu'ils veulent pour voir leurs besoins. Mais quand même, on voit dans la parole de Dieu, si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi. Il est pire qu'un incroyant. Je pense que les enfants ont besoin de grandir dans un contexte, dans la mesure de possible, où ils savent que papa, maman ou les autres dans mon entourage vont prendre soin de mes besoins. Je sais que des fois, des parents passent par des moments difficiles où ils n'ont pas beaucoup. Mais même moi, quand j'étais jeune, ma mère, mon père nous a laissés. Ma mère était seule avec... elle se trouvait comme une famille monoparentale avec deux garçons. Elle avait besoin d'aller travailler et c'était pas toujours évident pour elle de rejoindre les bouts. Mais qu'est-ce que j'ai su? J'ai jamais douté de son intention et de son amour pour moi. Amen. Même si elle n'était pas capable de donner tout ce que j'ai voulu, elle a démontré son désir de me bénir. Amen. Et elle a fait son gros possible pour pourvoir à mes besoins. Et je pense que c'est ça que les enfants vont voir. S'ils voient un cœur qui est généreux, savez-vous, moi je suis convaincu, si dans notre cœur on est généreux, la provision va suivre. Et si on met en pratique les principes de la parole, la prospérité va suivre aussi. Amen? Mais souvent on a cette mentalité que, oh mais les enfants, parce que nous avons eu des moments difficiles, on veut que nos enfants aient des moments difficiles aussi. Hein? C'est vrai, n'est-ce pas? Mais pas pour tout le monde, mais pour quelques-uns, oui. Je connais bien des personnes qui vont dire, hey, mais écoute, hein, maman, à chaque fois que je demande quelque chose, mes parents disent, mais moi, j'ai jamais eu ça quand j'étais jeune. Il y a des parents comme ça. Mais ça devrait pas être le cas dans la famille de Dieu. Amen. On devrait, dans la mesure du possible, et sans les gâter, on devrait les bénir. Amen. C'est le fun, hein? Vous savez, c'est quoi la différence entre être gâté et béni? Un cœur reconnaissant. Si on reçoit, on est reconnaissant, on remercie le Seigneur et on sait d'où ça vient et on remercie la personne qui nous a bénis, là, c'est un bon signe que la personne a bien compris. Amen. Donc, numéro 3, valoriser les enfants dans une atmosphère d'honneur et d'affection. J'ai entendu une histoire d'un petit garçon qui grandissait dans une maison où maman et papa collectionnaient les antiquités. Et il y avait des vases qui avaient des valeurs importantes dans la maison. Mais le petit gars, il grandissait comme dans un musée. Et à chaque fois qu'il voulait faire quoi que ce soit, les parents criaient toujours après lui, « Touche pas à ça!
Tu vas le briser. Touche pas à ça. Donc, le gars, il pouvait rien faire. Donc, il était comme prisonnier. Sauf un jour, il rentre à la maison et tous les vases, toutes les choses précieuses sont cassées en 1000 morceaux. Ça, c'est, il était rendu, je ne sais pas quel âge, mais il était peut-être 7-8 ans. Il a dit, ça va faire. Il a dit, il craquait. C'est comme, dans son cœur, et ce qu'il a expliqué plus tard, c'est que pour moi, t'aimais tes vases et tes choses précieuses plus que tu m'aimais. Les vases avaient plus de valeur à tes yeux que moi. Et il faut qu'on fasse attention parce que souvent, on peut donner cette image. Des fois, c'est pas une vase, mais des fois, c'est notre travail, n'est-ce pas? Il faut que j'aille travailler. Il faut que je fasse attention là-dessus. Il faut que je fasse attention des fois de dire oui à mes enfants, même si j'ai pas le temps de dire oui. Amen? Et c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a un équilibre. Des fois, il faut que je dise, bon, papa, il veut, mais j'ai vraiment besoin de finir telle chose, et puis, on va faire quelque chose ensemble. Mais laissez-moi vous dire que l'enfance passe vite. Est-ce que vous êtes d'accord? Et je veux pas être rendu à la fin de ma vie où je veux pas voir ma dernière fille quitter la maison sans avoir pris le temps de lui montrer qu'elle a du valeur à mes yeux, qu'elle est plus précieuse à moi que mon travail, que nos biens. Savez-vous, des fois c'est le travail, des fois c'est en char que papa va prendre tout le soin de polir et laver son char, mais il n'a jamais le temps pour habiller ses enfants ou l'argent pour habiller ses enfants, n'est-ce pas vrai? Donc, c'est là où on a besoin de se poser la question. Est-ce qu'on est en train de démontrer un honneur et de l'affection à nos enfants? Psaume 127:3 encore. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec ses amis à la porte. Regardons qu'est-ce que Paul a dit en Thessaloniciens. Il a dit, verset 7, « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection, tout le monde dit vive affection, pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Donc tu vois, ça c'est l'attitude de l'apôtre envers les membres de l'Église. On avait une vive affection. On vous aime. Si c'est le cas pour un apôtre, pour son Église, à combien plus fort raison devrions-nous, en tant que parents, donner cette affection à nos enfants? Et laisse-moi vous dire, je sais que c'est dangereux de parler comme ça parce que on a beaucoup de personnes, peut-être ici présentes, qui n'ont jamais eu de l'affection eux-mêmes. Et ils ont de la misère à exprimer les mots « je t'aime ». C'est précieux de valoriser l'enfant avec ses paroles ou avec les caresses, avec un toucher qui est sain et qui est valorisant. Mais on a besoin d'apprendre à le faire. Si vous êtes vous avez de la misère à démontrer de l'affection, demandez au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à démontrer de l'affection parce que les enfants ont besoin de l'affection. » Malheureusement, je ne sais pas qui a fait ces études, mais ils l'ont fait. Ils ont fait des études avec des nouveaux-nés. Et ils ont laissé quelques nouveaux-nés sans être touchés. Ils ont donné de la nourriture, ils ont changé les couches, mais à part de ça, ils n'ont rien fait. Ils n'ont jamais touché, caressé, ils n'ont jamais pris entre les bras ces nourrissons. Et savez-vous quoi? Ces nourrissons sont morts. Parce que un être humain a besoin de l'affection. On a besoin de ça. Et peut-être vous êtes là et vous dites, oui, c'est ça dont j'avais besoin, mais j'ai jamais eu ça. Sachez que Dieu vous aime avec une vive affection. Amen. Et que même dans le contexte d'une église, vous pouvez découvrir cette affection. Amen. On parle pas, quand on parle de l'affection, souvent les personnes sont mêlées, ils pensent sexualité, mais affection et sexualité, ils sont deux choses complètement différentes. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on, avec d'une manière saine, qu'on soit capable de démontrer une abondante affection à nos enfants. Numéro 4, c'est quoi dont les enfants ont besoin? Ils ont besoin d'un bon fondement. Poser le bon fondement d'une bonne instruction. Savez-vous que nous avons une responsabilité d'instruire nos enfants? Ça, c'est contraire à ce que beaucoup des gens disent aujourd'hui. Beaucoup de professionnels disent que la religion, c'est On ne devrait pas le forcer sur nos enfants. On doit les laisser choisir. Dans un sens, c'est vrai, mais dans un autre sens, nous avons une responsabilité et une redevabilité envers Dieu de les enseigner, de les instruire. Amen. C'est vrai qu'on ne peut pas les forcer de croire. Et comme on va voir tantôt, c'est une des raisons pour laquelle on ne fait pas le baptême des nourrissons, on fait une consécration au Seigneur. Parce qu'on croit que chaque enfant, chaque être humain a besoin de prendre sa propre décision pour suivre le Seigneur Jésus. Mais notre responsabilité, c'est de les enseigner et de leur donner quand même toutes l'information et l'instruction nécessaire pour qu'ils puissent prendre la bonne décision. Amen. Deutéronome 6:6 dit ceci. Et ces commandements aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc c'est là où ça commence. Si vous voulez instruire les enfants, il faut que les enseignements de Dieu soient dans votre cœur d'abord. Amen. Trop souvent, les personnes veulent déléguer la tâche d'instruire les enfants à l'église. Ils amènent leurs enfants à l'église, à l'école de dimanche, ils pensent, bon, l'église va les enseigner, mais dans le fond, c'est ma responsabilité en tant que père, premièrement, d'enseigner mon enfant. N'est-ce pas vrai? Et ces commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il y a des gens qui diraient que c'est un peu extrême, n'est-ce pas? Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc on voit que il faut que ça soit dans notre cœur. C'est pas une question de taper les enfants sur la tête avec une Bible. Moi, je dirais que c'est une question de vivre devant eux la réalité de ces choses. Amen. On en parle, oui. Mais comme quelqu'un a dit, je m'excuse, je peux pas entendre qu'est-ce que tu dis parce que qu'est-ce que tu fais, parle trop fort. Amen. Donc, c'est pas une question de déléguer la tâche à quelqu'un d'autre ou juste parler pour parler. C'est une question d'avoir les enseignements de Dieu dans notre cœur, parce que de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Amen? Et les enfants ont besoin de voir que maman, papa et les autres adultes dans l'église, ils vivent qu'est-ce qu'ils disent. Quand je l'ai choisi, Genèse 18, regardons qu'est-ce que Dieu a dit à propos d'Abraham, qui est le père de la foi. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc on voit l'importance. En fait, moi je crois que une des raisons pour laquelle Dieu a choisi Abraham, c'est parce qu'il savait Abraham, c'est un homme qui va enseigner ses enfants. Amen? Est-ce que vous êtes là? Voyez-vous l'importance? Encore, c'est pas juste vous avec vos enfants, mais c'est nous avec tous les enfants. On a besoin de les instruire, que ce soit ceux qui travaillent à l'école le dimanche, que ce soit nous tous. On a besoin de vivre l'Évangile devant eux. Numéro 5, donner la sécurité d'une correction équilibrée. Savez-vous que les enfants, oui, ils ont besoin d'une provision. Oui, ils ont besoin de l'affection. Oui, ils ont besoin d'un amour sans condition. Mais ils ont besoin de l'instruction. Mais ils ont besoin également de la correction. Avez-vous remarqué qu'un enfant laissé à lui-même ne va pas toujours prendre les bonnes décisions? J'ai remarqué qu'un enfant laissé à lui-même, si c'était à lui, il mangerait de la crème glacée et des smarties 7 fois par jour, 7 jours sur 7, et il serait bien content, mais bien malade. Amen? Est-ce que vous avez remarqué ça? Les enfants ont besoin d'être corrigés, mais il y a un équilibre qu'on a besoin de trouver dans notre correction. En fait, je vais juste lire quelques versets dans vos notes. Proverbe 23:13. N'hésite pas à punir ton enfant. Quelques bonnes corrections ne le tueront point. Les punitions et les réprimandes donnent de la sagesse. Un enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrigera de bonheur. Amen. Donc, les personnes qui disent que c'est pas bon de corriger un enfant, il faut juste le laisser faire sa vie et on veut pas étouffer sa personnalité. Ces personnes n'ont pas compris que la rébellion se trouve dans le cœur de chaque enfant et qu'on a besoin de donner une correction. Mais quand on corrige, on n'écrase pas. Amen? C'est ça, moi, j'essaie de faire attention et laisse-moi vous dire juste une chose, parce que à chaque fois qu'on parle des parents, d'enfants, il y a toujours une possibilité que des personnes vont se sentir comme un peu culpabilisées parce que on a tous, eux, des succès, on a tous, eux, des échecs en tant que parents, n'est-ce pas? Mon beau-père m'a dit, c'est une chose, je suis allé à l'université, j'ai tant de degrés, mais ils ne m'ont jamais enseigné une seule chose sur comment être un bon mari et comment être un père. J'ai jamais eu un cours là-dessus. Donc, il s'est divorcé et il a eu des problèmes avec ses enfants. Amen? Donc, mais lui, c'est pas parce que c'est un gars méchant. Laisse-moi vous dire, maintenant, il est chrétien, il aime le Seigneur, il est marié avec ma mère depuis 20 ans, et c'est un homme de Dieu qui connaît les choses de Dieu et qui aide énormément des couples à avoir un bon mariage, et il aide beaucoup de personnes avec leurs enfants aussi. Il a appris. Mais il a dû apprendre en prenant une route qui n'était pas toujours agréable. Amen? Donc là, je dis ça juste pour dire que, des fois, on pense que dans notre société, on est toujours prêt à blâmer les parents. On dit, bon, c'est la faute du papa, c'est la faute de maman que l'enfant a tel problème. Si c'est toujours la faute de maman et papa, ou des parents, donc là, je pourrais dire que Dieu lui-même n'est pas un bon père. Parce que son fils, Adam, a désobéi, n'est-ce pas? Adam a fait exactement qu'est-ce que Dieu lui a dit de ne pas faire. Est-ce que Dieu est un mauvais papa? Non! C'est parce que moi, je crois qu'on a une responsabilité de faire le mieux qu'on peut avec l'aide du Seigneur, mais tout en sachant que chaque enfant a un libre arbitre et a la puissance et le pouvoir de choisir lui-même qu'est-ce qu'il va faire dans la vie. Et des fois, même avec toute la bonne instruction, même avec toute l'affection, même avec toutes les bonnes choses, l'enfant va quand même prendre une mauvaise décision. Vous êtes d'accord? Sauf que, je suis convaincu que si on met les choses de Dieu en pratique, on va courir moins le risque d'avoir les mauvais résultats. Amen? On peut quand même améliorer les chances de l'enfant de réussir. Juste regardons, on va finir ici. Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. Donc, pour moi, corriger, discipliner, c'est très important, sauf que c'est toujours équilibré avec l'amour et la tendresse. Amen? Comme quelqu'un a dit une fois, je trouve ça bien de bon sens, les règles sans une relation provoquent la révolte. Les règles sans une relation provoquent la révolte. Une chose que mes parents, je suis tellement reconnaissant et je rends grâce à Dieu que même quand ma mère m'a discipliné et ma mère était très, très stricte, mon père aussi, elle était très stricte, mais j'ai jamais pour une seule minute douté de son amour pour moi. Et même avant de me discipliner, de me corriger, elle me regardait dans les yeux et disait, tu sais quoi, je t'aime, je veux que tu apprennes ces choses, je t'aime, je veux que tu aies une longue vie. La Bible dit, enfin, obéissez à vos parents. C'est le premier commandement avec une promesse. Quelles sont les deux choses qui sont attachées à cette promesse? Une longue et heureuse vie. Amen. Donc, on continue. Numéro 6. Cultivez leur raison d'être en les pointant dans la bonne direction. Tout le monde dit la bonne direction. Donc, on n'a pas besoin juste de les corriger, mais on a besoin de les pointer dans la bonne direction. La Bible dit en Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Donc, moi, j'aime ça parce que j'aimerais juste que vous souligniez une chose, la voie qu'il doit suivre. Chaque enfant a une voie différente, n'est-ce pas? Moi, j'ai 5 enfants et c'est incroyable. Chaque enfant a une personnalité différente, complètement différente. Et je pense que notre devoir en tant que parent, c'est de voir où est-ce qu'il est doué. C'est quoi l'appel de Dieu sur sa vie? Et je vais aider mon enfant à être pointé dans cette direction. Ça serait une erreur pour moi de vouloir imposer sur mes enfants mon appel ou ma raison d'être. Souvent, les personnes font ça, surtout avec les enfants des prédicateurs. Oh, mais eux autres, ils vont être des prédicateurs aussi. Peut-être oui, mais peut-être non. Amen? Donc, ma responsabilité, mon devoir, c'est de dire, Seigneur, montre-moi, c'est quoi la voie que Andrew est supposé de suivre? Quelle est la voie que Michael est supposé de suivre? Quelle est la voie que Zachary, John et Lorraine sont supposés de suivre? Et aide-nous, avec la sagesse de Dieu, à les pointer tous dans la bonne direction. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Donc, notre responsabilité, c'est de les pointer dans le bon sens. Amen? Et puis, les laisser aller. Alléluia. Donc, merci Seigneur Jésus. Donc, on va juste terminer ici et on va faire quelque chose de bien, bien de fun ce matin. Alléluia. Ici, je vais juste lire 1 Thessaloniciens 2, 11 et 12 dit, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. » Est-ce que vous pouvez souligner ça? Vous exhortant, vous consolant et vous conjurant. C'est quoi un bon père? Un bon père va exhorter, consoler et conjurer et encourager son enfant de marcher d'une manière digne de Dieu qui a appelé ses enfants au royaume de sa gloire. Amen. Numéro 7, montrez le bon chemin en le prenant vous-même. C'est quoi la meilleure façon de montrer le bon chemin à vos enfants? Il faut le prendre vous-même. Un parent qui se drogue et qui dit à ses enfants de ne pas se droguer, ça ne prend pas un scientifique de savoir, de deviner qu'il est fort probable que son enfant va se droguer aussi. Un père qui ne lit jamais sa Bible, mais qui dit à son fils, tu devrais lire ta Bible, c'est peu probable que le fils va lire sa Bible. Amen? Quelqu'un qui dit, sois gentil avec les autres, mais qui est toujours méchant, hein? Un papa qui dit, sois gentil avec vos amis à l'école, mais... Papa est méchant avec maman à la maison, laissez-moi vous dire, ça ne marcherait pas. Donc, notre plus grande responsabilité, c'est de vivre l'Évangile devant nos enfants, de montrer le bon chemin en le prenant nous-mêmes. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Tout le monde dit un modèle à imiter. Cette chose qu'on peut faire pour nos enfants et pour les enfants dans notre entourage, c'est des choses à réfléchir et penser, n'est-ce pas? Donc, Tania, si tu veux venir, OK, Jean-Charles va venir au piano, on va demander à tous les enfants de venir et on va prendre quelques minutes ce matin de faire quelque chose de bien, bien...